Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Notre invité aujourd'hui est Hubert Reeves. Bonjour.
Bonjour, bonjour Alain.
Bonjour Hubert, vous êtes astrophysicien et vous publiez au Seuil les chroniques des atomes et des galaxies qui font suite d'ailleurs aux chroniques du ciel et de la vie, une série de chroniques enregistrées pour France Culture. Et vous écrivez dans la préface de ces chroniques que ces chroniques nous parlent de cet univers qui nous a engendrés. Elles s'adressent à la question de notre origine, d'où venons-nous et comment en sommes-nous venus à exister. Alors, est-ce que la science aujourd'hui nous a aidés à progresser sur cette question ?
Jusqu'à un certain point. Je ne parlerai pas de questions, de sujets métaphysiques, de création, ça n'est pas dans le domaine de la science, mais il est évident que ce que la science contemporaine nous a appris raconte un peu notre histoire, c'est-à-dire un début de la cosmologie aujourd'hui, c'est d'essayer de remonter dans le temps et de voir ce qui s'est passé dans le passé le plus lointain de possibilités. Et donc, en nous racontant le scénario du Big Bang, qui est pour l'instant de beaucoup le plus crédible, il ne s'agit pas de vérité. Hein. Il faut bien dire qu'en science, on n'est pas dans un domaine de vérité, ce n'est pas un domaine de révélation. C'est un domaine de plausibilité. Quand on regarde les différents scénarios qui ont été présentés pour décrire le passé de l'univers, il est bien évident que celui qui rallie les opinions parce que c'est celui qui est le plus appuyé par les observations, c'est bien le scénario du Big Bang. Donc je prends pour acquis que c'est le scénario le plus valable, et celui-là nous permet de remonter dans le passé jusqu'à 13 ou 14 milliards d'années, et nous apprend que l'univers de ce lointain passé est très différent de l'univers d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un univers qui est très chaud, des milliards de degrés, très dense, des milliards de fois la densité du plomb, très lumineux, un immense flash, d'où vient le mot Big Bang, et que l'histoire de l'univers, c'est un peu l'histoire d'un refroidissement progressif, obscurcissement progressif et dilution. La température diminue, la densité, la luminosité, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes dans un univers passablement froid. Il faut dire que la température moyenne entre les galaxies, elle est de 3 degrés, mais pas 3 degrés Celsius, 3 degrés absolus, ce qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Donc nous sommes dans un univers froid. Heureusement, ici, il fait un peu plus chaud, mais c'est simplement parce que nous sommes près d'une étoile, ni trop près, ni trop loin. Nous sommes dans un univers qui est de plus en plus dilué et de plus en plus sombre. La nuit est noire. Le jour, bien sûr, il fait clair, mais là aussi, c'est parce qu'on est près d'une étoile, mais la nuit, il fait noir. Mais il y a une quatrième différence. Non seulement l'univers se refroidit, s'obscurcit et se dilue, mais il y a aussi cette différence importante, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un univers extrêmement structuré. Il y a des structures pratiquement à toutes les échelles, à partir des amas de galaxies, qui sont les plus grandes structures que nous connaissions, jusqu'aux galaxies, et puis par un ordre décroissant, on arrive aux étoiles, qui sont aussi des systèmes organisés, structurés, des planètes, et puis ensuite sur la Terre, sur notre Terre en tout cas, il y a des animaux de tailles différentes, entre les séquoias, les baleines et puis les virus. Et puis on continue en dimension et on arrive au niveau des molécules, les molécules géantes, les protéines, les molécules simples, l'eau, le gaz carbonique. Et puis on continue notre descente dans les dimensions et on arrive au niveau des atomes, tous les quelques cent atomes à peu près de la table de Mendeleïev. Et à l'intérieur des atomes, on retrouve des protons et des neutrons. Et à l'intérieur, on retrouve des quarks. Il y a aussi des électrons. Donc, résumé, notre univers est très richement structuré sur toute la gamme, des plus grandes dimensions jusqu'aux plus faibles. Ça n'est pas le cas dans l'univers des premiers temps. Aujourd'hui, nous avons des images en direct de l'univers des premiers temps, le rayonnement fossile, ce rayonnement millimétrique qui a été découvert dans les années 1965 et que l'on continue à étudier avec des télescopes de plus en plus perfectionnés, nous donne une image non pas de l'univers des tout premier temps, mais il a tout juste 300 000 ans. On peut dire 300 000 ans, c'est long. Mais 300 000 ans par rapport à 13 ou 14 milliards d'années, c'est rien. Donc, on voit l'univers dans ces images et on découvre, en y associant la physique que nous connaissons, la relativité, la physique quantique, on découvre que l'univers de ces premiers temps n'héberge aucune des structures que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a ni galaxies, ni étoiles, ni planètes, ni êtres vivants, même pas de molécules, même pas d'atomes. Celui des tout premiers temps ne contient qu'une espèce de soupe, d'un potage de particules élémentaires que sont les électrons, les quarks, les gluons, les neutrinos, il y en a toute une collection. Et ça nous permet donc d'estimer une quatrième différence entre l'univers des premiers temps, désorganisation, ou plus exactement absence de structure organisée, et aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un élément fondamental de l'univers, c'est comment on peut décrire l'histoire de l'univers comme ce que nous appelons la croissance de la complexité. Nous savons aujourd'hui, avec des estimations assez précises, à quel moment les protons et les neutrons se sont formés à partir des quarks. L'univers a quelques millionièmes de secondes, je pense. À quel moment apparaissent les premiers noyaux? Ce sont les noyaux d'hélium. L'univers a environ une minute. Et puis, à quel moment apparaissent les premières galaxies? Et dans ces galaxies, les étoiles. Et puis, il y a toute l'évolution des étoiles qui produit les éléments lourds. Et ces éléments lourds, un beau jour, se retrouvent dans une nébuleuse que nous appelons la nébuleuse protosolaire. C'est celle qui va former le système solaire. Dans cette nébuleuse, il y a ces atomes de carbone, d'azote et d'oxygène qui ont été fabriqués dans les étoiles des générations précédentes. Et cette nébuleuse s'effondre sur elle-même, donne naissance au centre, au Soleil, et à la périphérie, le système solaire, dont notre planète, la Terre. Notre Terre apparaît il y a environ 4 milliards 600 millions d'années. Elle est très chaude à ce moment-là. Il n'y a pas de vie, c'est une boule de lave incandescente. On ne sait pas très bien comment ça se passe, c'est assez mystérieux, que quelques centaines de millions d'années plus tard apparaissent les premiers organismes vivants formés justement de ces molécules qui se sont formées à partir des atomes. Et ces organismes vivants, qui sont les algues bleues, les diatomées, des petits organismes minuscules, il faut une loupe pour les voir, vont ensuite se fédérer pour former tous les organismes vivants à partir des oursins, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les premiers mammifères, et puis ensuite les simiens, les hominiens, jusqu'à nous. Donc, en un certain sens, pour répondre à votre question, l'astronomie nous raconte cette histoire si nous nous demandons comment ça se fait que nous sommes ici aujourd'hui? D'où venons-nous? Eh bien, elle nous permet de retracer toutes ces étapes qui nous remontent jusqu'au Big Bang et dans lesquelles il y a eu cette histoire extraordinaire, il faut bien dire, de cette matière totalement désorganisée qui s'organise progressivement grâce à la présence des lois de la physique, la gravité, la force nucléaire, la force électromagnétique, la force faible, et puis bien d'autres facteurs qui font que nous pouvons aujourd'hui dérouler l'histoire du passé, de comment nous en sommes venus à être là aujourd'hui.
Histoire que vous déroulez, Hubert Reeves, après l'explication de ce qu'est le Big Bang, que vous qualifiez de plausible. Est-ce à dire qu'il y a des difficultés sur le modèle lui-même?
Le modèle est très incomplet. Il a des incohérences, des difficultés. C'est normal. C'est la façon de la science. La science progresse par des avances, des théories, des observations. Aujourd'hui, on peut dire que sur le plan des observations et de la cohérence entre les observations et la théorie, le modèle du Big Bang est un modèle admirable. Il faut bien dire que ce qu'on exige d'une théorie scientifique, c'est qu'elle puisse faire des prédictions sur des observations qui n'ont pas encore été faites. Et le Big Bang, sur ce plan, il est admirable. Chaque fois, par exemple, il suffirait de trouver quelque part dans l'espace un endroit dans les galaxies où la température moyenne est inférieure à 3 degrés. Et en fait, quand on regarde plus loin, elle doit être plus élevée. Jamais on n'a trouvé un seul endroit où la température est inférieure à celle qui est produite par le Big Bang. Jamais on n'a trouvé une étoile qui soit beaucoup plus vieille que les 13-14 milliards d'années. Si on trouvait une étoile qui a plus de 100 milliards d'années, ce serait la fin du modèle. Jamais on a trouvé une étoile qui a, disons, on va jusqu'à 20 milliards parce qu'il y a des incertitudes, mais au-delà de ça, on n'a jamais trouvé. On peut aussi dater les atomes. Nous savons dater les atomes grâce au fait qu'il y a des atomes radioactifs avec des longues périodes, l'uranium 235, 1 milliard d'années, le 238, 6 milliards d'années, le thorium 232, 10 milliards d'années, si je me souviens. À partir de cette comptabilité des atomes, on peut faire des horloges et on peut dater les plus vieux atomes. On n'a jamais trouvé d'atomes qui dépassent, disons, 15 ou 20 milliards d'années. Vous voyez, il y a une cohérence interne qui font que le modèle explique très bien tout ce qui est prévu. Ce modèle également, un autre de ses grands succès, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a trois familles de particules élémentaires, les familles des électrons, la famille des muons et la famille des tauons. Et on s'est demandé longtemps si, bon, on en connaît trois, il y en a peut-être plus. Alors, la question se posait. L'astrophysique, par l'observation des abondances d'hélium et d'hydrogène, je ne vais pas entrer dans les détails, est compatible avec l'idée qu'il y a trois familles et pas plus. On a montré, près de 20 ans après cette prédiction, au CERN, en regardant les durées de vie des particules très, très lourdes, qu'il y a trois familles et pas plus. Chaque fois qu'on a pu mettre un test sur la théorie du Big Bang, la réponse a été tout à fait positive. Alors, ça ne veut pas dire que le modèle est complet, loin de là. Nous avons des difficultés fondamentales avec la physique, mais ce n'est pas une difficulté du Big Bang, c'est une difficulté de la physique quant à ce qui regarde la densité des énergies quantiques. Et ça, on n'a pas de réponse à cela. Le problème, c'est très simple. C'est que la physique quantique, la physique atomique, formulée dans les années 1920, 1930 et plus, est une théorie extrêmement précise. Elle est capable de reproduire des observations avec une précision d'une partie dans un milliard. Or, cette théorie implique qu'il existe d'autres formes d'énergie que celles que nous connaissons. Nous connaissons les énergies thermiques, les énergies mécaniques, les énergies de gravitation. Cette théorie implique qu'il existe aussi des énergies quantiques, une certaine forme d'énergie que nous appelons des énergies quantiques. Ces énergies sont en rapport avec le principe d'indétermination d'Heisenberg qui dit, grosso modo, qui implique précisément qu'il y a continuellement des particules et antiparticules qui apparaissent et qui disparaissent dans l'univers. Alors, ces théories de la physique quantique, c'est la présence de ces énergies quantiques, nous permet de nous demander la question, quelle est la densité que représentent ces énergies quantiques? Alors, quand on fait un calcul simple, on s'aperçoit qu'on arrive à des densités absolument catastrophiques qui sont telles que si l'univers avait une telle densité, il se serait recontracté sur lui-même en une fraction de seconde, de sorte que nous ne serions pas. Donc, ce problème de l'évaluation de la densité des énergies quantiques, qui est également le problème de la constante cosmologique d'Einstein, c'est un peu la même chose, est un problème majeur, parce que les premiers calculs montrent que ces énergies devraient être très élevées. On sait bien que ce n'est pas le cas. Alors, on se dit, on ne connaît pas très bien la physique des particules, on va essayer de revoir ça d'un peu plus près et on va supposer qu'il existe, et c'est tout à fait compatible avec la physique, une espèce d'algèbre qui fait qu'une partie de ces énergies sont positives, les autres sont négatives, total que l'énergie quantique, les énergies du vide devraient être égales à zéro. Donc, on se dit, bon, c'est très bien. Sauf que, maintenant qu'on a découvert l'énergie sombre, c'est-à-dire ce phénomène qui fait que les galaxies non seulement ne sont pas attirées, ne sont pas dans un mouvement, les galaxies, l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais normalement, on croyait jusqu'à vers 1995 que ce mouvement des galaxies devait subir une certaine décélération simplement parce que les galaxies s'attirent. Quand vous lancez un caillou dans l'air, vous voyez bien que le caillou ralentit. Et donc, on s'attendait à observer une décélération des galaxies. En fait, la grande découverte fondamentale des années depuis 1995, et maintenant bien confirmée, non seulement les galaxies s'éloignent de nous, mais elles s'éloignent de plus en plus vite au lieu de s'éloigner de plus en plus lentement. Et cela, on l'associe, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, à la présence justement d'énergie, de ces énergies quantiques qui sont, eux, ne sont pas, qui ont sur les galaxies, non pas un effet attractif, comme la densité l'énergie gravitationnelle habituelle, mais répulsif. Et cette observation de l'accélération de l'univers implique qu'il y a une énergie, qu'il y a effectivement ces densités d'énergie quantique qui ne sont pas nulles et qui ne sont pas infinies. Alors on est très embêté si on n'a aucun modèle aujourd'hui qui nous permette de dire pourquoi ces densités d'énergie quantique ont une valeur non nulle et non pas infinie. Et voilà une des difficultés, mais ce n'est pas simplement une difficulté du modèle du Big Bang, c'est une difficulté de la physique tout entière. Indépendamment du modèle, si on admet ces énergies quantiques, on devrait arriver, dans une première estimation, à un univers qui dure une fraction de seconde, dans une deuxième estimation, à des énergies quantiques nulles. C'est ni l'un ni l'autre n'est le cas.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui de considérer que la cosmologie est réalisable, faisable, quand on ne voit que 5% de la matière de l'univers? Est-ce que ça a un sens même de parler de cosmologie en considérant qu'on a perdu ces 95% de la matière de l'univers qu'on appelle pour 20% matière noire, matière sombre, et pour les 70% restants, énergie noire, énergie sombre?
Oui, ça dépend de ce qu'on appelle voir. Quand vous dites on ne voit que 5%, vous voulez dire qu'il n'y a que 5% qui interagit avec nous en émettant de la lumière. Ça, c'est vrai. Une des grandes constatations de la physique aujourd'hui, c'est que l'ensemble des étoiles et des galaxies, c'est-à-dire toute la matière ordinaire, faite comme vous et moi de protons et de neutrons, ne représente que 5% de l'univers. Mais la matière interagit avec nous de plusieurs façons. La plusieurs premières façons, bien sûr, celle que je viens de décrire, c'est en émettant de la lumière, c'est pour ça qu'on voit le soleil, qu'on voit les étoiles. Mais la deuxième façon, connue depuis Newton, la gravité universelle, et depuis Einstein, c'est qu'elle interagit par son champ de gravité. Et si nous affirmons qu'il y a une matière sombre, c'est que cette matière sombre se révèle à nous. Se révèle non pas en émettant de la lumière, elle n'en émet pas, mais se révèle en ayant par son champ de gravité des effets sur les matières visibles, elles. Par exemple, prenons les étoiles qui tournent au centre de la galaxie, qui tournent autour du centre de la galaxie. Alors ces étoiles, nous pouvons mesurer leurs orbites et nous voyons que ces orbites impliquent qu'il y a plus de matière dans la galaxie que ce que nous voyons. Donc nous, on a détecté cette matière sombre et cette énergie sombre. On ne peut pas dire qu'on ne les a pas détectées. Nous savons qu'elles sont là, nous avons des preuves. Bon, il y a toute cette question de savoir si peut-être la théorie de la gravité est vraiment tout à fait capable de... Si la théorie de la gravité était à revoir, on pourrait penser que cette matière n'existe pas et que ce n'est qu'une faiblesse de la théorie de la gravité. En fait, tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici, ils sont nombreux pour essayer de tester la possibilité d'une autre théorie de la gravité, qui n'est pas incompatible avec la théorie d'Einstein. On peut ajouter des termes dans la théorie d'Einstein, mais ces termes-là sont également passibles d'être vérifiés ou confirmés leur existence sur d'autres phénomènes. On a montré que jusqu'ici, il n'y a aucune extension de la théorie de la gravité compatible avec les observations qui permettent de nier l'existence de la matière sombre. Donc je pense que, bien sûr, rien n'est jamais définitif en science, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut admettre l'existence de la matière sombre, et le dernier numéro de Nature, par exemple, nous présente une cartographie de la matière sombre dans l'univers qui enveloppe bien les amas de galaxies et les amas d'étoiles, de sorte que je pense qu'on peut dire que cette matière sombre est observée, non pas par la lumière, mais par ses effets indirects, que l'énergie sombre est observée par ses effets, c'est-à-dire l'accélération des mouvements des galaxies, et que tout cela semble tout à fait crédible. Ça n'est pas pour autant que nous savons quelle est la nature. Et une des questions fondamentales aujourd'hui, c'est quelle est la nature de cette matière sombre? S'agit-il de particules élémentaires, comme les neutrons et les protons? Peut-être, mais ce seraient des particules qui interagiraient très peu. Sinon, on aurait découvert depuis longtemps. Et une des grandes courses aujourd'hui de l'astronomie, des laboratoires de physique, c'est de détecter ces fameuses particules qu'on appelle des neutralinos, faute de savoir ce que c'est, et qui seraient responsables de cette matière sombre. De même, l'énergie sombre, on ne sait pas ce que c'est, Sauf qu'il est tout à fait possible, plausible, qu'il s'agisse effectivement de ce bourdonnement du vide, de ces paires d'électrons et de particules et d'antiparticules qui se créent continuellement. Sauf que cette idée est tout à fait convenable, mais on n'a aucun moyen d'évaluer convenablement quelle est la densité de ces énergies. Comme je vous ai dit, elle serait ou bien zéro ou bien infinie. Le fait qu'on ne puisse pas l'évaluer, que nous sachions qu'elle est là, qu'on ne puisse pas l'évaluer, eh bien, montre jusqu'à quel point nous avons encore des choses à découvrir, aussi bien en physique des particules qu'en astronomie. Donc, c'est de l'espoir pour les futurs, pour les étudiants qui se disent « Oh, tout est connu, c'est pas la peine », comme on disait à la fin du 19e siècle. Je ne sais plus qui c'est, Berthelot, qui disait « Oh, la physique s'est ajoutée quelques décimales ici et là ». Eh bien, c'était avant la relativité et avant la physique quantique.
Aujourd'hui, donc, on peut dire 5% de connu et 95% d'inconnu. C'est pas
oui, d'inconnu, dans le sens qu'on sait qu'elle est là, mais qu'on ne connaît pas la nature. Ça, c'est vrai. On ne connaît pas la nature précise de 95% de la matière, je n'ose même pas dire matière, de la substance de l'univers.
C'est quand même beaucoup.
Tout ce que nous savons, c'est que 25% est attractif, comme la loi de Newton, et 70% environ est répulsif.